Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous allons voir maintenant le dernier sacrement que nous recevons, à savoir le sacrement de l'extrême-onction, qui peut paraître un sacrement un peu mineur, comme un complément du sacrement de pénitence, puisqu'il remédie au reste du péché, qui en réalité est un très beau sacrement, puisque il est celui des derniers combats pour nous faire entrer dans la gloire. C'est un sacrement qui nous configure, qui nous fait imiter, qui nous donne une ressemblance avec le Christ mourant sur la croix pour mener les derniers combats qui conduisent à la gloire. Les bons chrétiens connaissent l'importance de l'extrême-onction. D'abord parce que les bons chrétiens se méfient d'eux-mêmes. Ils savent que l'homme est faible, que le démon est puissant, et que le démon cherche à récupérer les âmes qu'il n'a pas pu acquérir durant leur vie. L'homme est d'autant plus faible qu'il y a les conséquences du péché. Et puis, il y a également cette conviction que nous ne sommes pas seuls dans cette dernière lutte, nous sommes avec le Christ pour entrer dans la gloire avec lui, régner avec lui éternellement. Et donc les bons chrétiens se rendent compte de l'importance de ce sacrement. Mon père m'a fait jurer 3 fois que je lui donnerais l'extrême-onction en temps utile, c'est-à-dire dès l'annonce de sa dernière maladie, et que je n'attendrai pas, comme cela est trop fréquent, hélas, les derniers instants. Si je vous raconte cela, d'une part, c'est pour vous montrer l'importance de ce sacrement, également parce que cela montre l'importance du Père et pas seulement de la mère dans la formation sacerdotale. Je n'ai aucune honte à dire que, bien sûr, ce qui a fait de moi un prêtre, c'est l'ordination sacerdotale et le caractère sacerdotal, mais la formation du prêtre, je la dois à mes professeurs, à Monseigneur Lefebvre, mais aussi à mes parents. Et je remercie mon père de m'avoir donné cette leçon, parce que je lui ai répondu, écoute, papa, je connais mon métier et je sais quand même l'importance, je connais l'importance de l'extrême-onction. Et il m'a répondu, vous êtes tous les mêmes, devant la mort, vous êtes faibles et vous avez peur. Et je remercie mon père de m'avoir donné cette leçon, qui fait que non seulement cela lui profitera à lui, mais à d'autres également. Ne pas avoir peur de la mort, c'est Saint Grégoire le Grand qui le dit. Celui qui hésite à ouvrir la porte à Jésus-Christ qui frappe, montre par là qu'il a peur parce qu'il a quelque chose à se reprocher. Pour entrer un peu plus dans les détails, il faut voir que l'extrême-onction est un sacrement. Deuxièmement, il va falloir en considérer les effets. Troisièmement, qui peut donner l'extrême-onction? Ça sera facile. Et quatrièmement, à qui donner l'extrême-onction? Je crois qu'aujourd'hui, nous n'arriverons à faire que le début de cette étude. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce sacrement n'étant pas mineur, il mérite qu'on s'y attarde un petit peu, même si on s'y attarde moins que sur la Sainte Eucharistie ou le sacrement de pénitence. L'extrême-onction est un sacrement. Oui, l'Église nous l'enseigne, c'est tout, c'est le Concile de Trente qui le rappelle. Cette certitude s'appuie sur l'enseignement de Saint Jacques dans son épître. Si quelqu'un est malade, qu'il fasse venir le prêtre et qu'il lui fera les onctions, qu'il priera et le malade sera guéri. Cependant, cette phrase de Saint Jacques avait besoin de précision et je profite de l'occasion pour vous dire que l'enseignement de l'Église nous est transmis non seulement par l'Écriture sainte, mais également par la tradition. C'est très important cela. Le Saint Concile de Trente nous enseigne que la révélation divine, donc la parole de Dieu, nous a été transmise soit dans des écrits, soit comme de main en main à travers l'histoire, et c'est ce qu'on appelle la tradition. Alors les deux ont la même dignité, puisque les deux sont la parole du Christ et la parole de Dieu. Mais il y a une priorité de la tradition sur l'Écriture sainte, parce que d'abord l'Écriture sainte a besoin d'être bien comprise et donc interprétée, et le sens doit en être garanti. Rappelez-vous ce que dit saint Paul, la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Et il y a besoin de la tradition pour nous faire bien comprendre l'Écriture sainte. Et c'est le cas pour le sacrement de l'extrême-onction. Si nous n'avions que la lettre de saint Jacques, nous serions un petit peu désemparés et dans le doute. La tradition a également une autre priorité, c'est qu'elle est facile à comprendre et donc elle a une priorité d'enseignement. Tandis que l'Écriture sainte suppose malgré tout déjà une certaine connaissance pour arriver à en faire son fruit. Et enfin, la tradition précède l'Écriture sainte puisque tout ce qui a été écrit a d'abord été enseigné oralement. Et alors la tradition, la vraie tradition, celle qui est présentée comme parole de Dieu par l'Église, est infaillible, comme l'Écriture sainte, puisqu'il s'agit de la parole de Dieu. Maintenant, tout ce que l'Église, ou tout ce que les papes, ou tout ce que les évêques disent, n'est pas la tradition. Et donc tout ce qu'ils disent n'est pas infaillible. Mais ce qu'ils présentent comme étant la parole de Dieu est nécessairement infaillible. Il fallait le rappeler cela, parce que les modernistes ont beaucoup profité de ce que le sacrement de l'extrême-onction nous est principalement connu par l'Église, pour affirmer que même notre Seigneur Jésus-Christ n'en serait pas l'auteur, et que ce sont les apôtres qui l'auraient institué. Saint Thomas pose une question là-dessus, et il dit non, Jésus-Christ est l'auteur. Comme c'est lui qui agit, c'est à lui de l'instituer, bien entendu. Et les apôtres n'ont été que les promulgateurs. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il laissé aux apôtres le soin de promulguer ce sacrement, alors que d'autres, il les a promulgués lui-même? Saint Thomas nous en donne la raison, c'est que il faut procéder dans l'ordre, et il y a des choses pour lesquelles il faut attendre la venue du Saint-Esprit, l'achèvement de l'incarnation ici-bas. Ce sacrement est donné sous forme de médication ou de remède. C'est le dernier sacrement pour la dernière étape de la vie. Vous vous rappelez que saint Thomas avait fait remarquer que le Christ avait donné un sacrement pour chaque étape de la vie. Voilà, ça n'est pas difficile. C'est celui de la dernière étape, l'entrée dans la gloire. Et là encore, il faut faire remarquer que les modernistes ont déformé les choses. Ils en font le sacrement des malades. Non, c'est le sacrement de l'entrée dans la gloire, donc le sacrement du dernier combat. On ne peut pas comprendre pourquoi c'est donné uniquement à la dernière maladie, parce que la vie de l'homme sur la terre est un combat. Alors pour tous les combats ordinaires, Vous avez tous les sacrements, depuis le baptême jusqu'à l'Eucharistie, en passant par le sacrement de pénitence, la confirmation et la pénitence. Et là, il s'agit du dernier combat, l'entrée dans la gloire, donc il y a un sacrement spécial pour cela. C'est le sacrement donc du dernier combat, et non pas de n'importe quel combat. Pourquoi les modernistes ont-ils voulu en faire le sacrement des malades et non pas l'extrême onction, c'est-à-dire la dernière onction? Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur de faire peur aux malades. Ils n'ont pas le courage de révéler aux malades l'état de sa maladie. Et cela dénote évidemment un manque de foi dans la valeur du ciel. C'est une évidence. C'est vrai que ce n'est pas facile. Le ministère de l'extrême-onction est un ministère difficile. Surtout quand on a affaire à des gens qui ne sont pas très bien disposés et à qui il faut parler de la mort alors qu'ils n'y ont jamais fait attention. Quand on a affaire à quelqu'un qui a toujours médité sur la mort, il suffit de lire le récit de la mort de maman Marguerite, la mère de Saint Jean Bosco. Alors là, évidemment, c'est facile. La matière et la forme du sacrement de l'extrême-onction. Puisque le sacrement est un signe, il y a une grande importance à accorder au symbole. Dans la Sainte Eucharistie, le sacrifice eucharistique, le symbole est très fort, puisque ce sont les espèces du pain et du vin, c'est-à-dire une nourriture. On ne peut pas passer à côté du signe. Ici, le symbole, c'est l'huile. Et nous allons le voir, l'huile consacrée, et même consacrée par l'évêque. Alors tout d'abord, l'huile d'olive. L'huile d'olive, parce que c'est celle dont parle Saint Jacques. En effet, il n'y a de véritable huile que l'huile d'olive. En latin, oleum, qui vient d'oliva, l'huile qui vient de l'olive, comme le vin vient de la vigne. Et on pourrait absolument pas admettre un vin qui ne serait pas un vin de la vigne. Un vin de pomme, c'est pas du vin. De même, une huile qui ne serait pas d'olive, ce n'est pas vraiment de l'huile, c'est quelque chose qui ressemble. Pourquoi j'insiste? Parce que là encore, les modernistes ont voulu changer les choses. Il faut qu'ils changent. Il y a un orgueil chez les modernistes. Un véritable orgueil. C'est la raison, d'ailleurs, du modernisme. Le pauvre pape Paul VI a décidé qu'on pourrait prendre n'importe quelle huile. Huile végétale quand même, pas de l'huile d'auto. C'est une matière qui est au moins douteuse. Pour la Sainte Eucharistie, celui qui prendrait du vin de palme ou du vin de noix ou du vin de je sais pas quoi, c'est certain, ça serait nul. Absolument certain, il n'y a aucune hésitation. Pour l'extrême onction, comme le problème est récent, l'Église n'avait pas pensé à se prémunir contre un changement qui serait fait un jour par un pape qui changerait la matière du sacrement de l'extrême-onction. Mgr Lefebvre tenait particulièrement à ce qu'on fît attention à cela, et il dit que beaucoup d'extrême-onction, de confirmation, sont nulles, parce qu'on n'emploie pas l'huile d'olive. Pourquoi prend-on de l'huile? Ça c'est très beau, ça c'est la délicatesse du bon Jésus. Comme c'est une médication spirituelle, dit saint Thomas d'Aquin, que l'on applique à la fin de la vie. Elle doit être à la fois parfaite et douce. Pourquoi parfaite? Parce que c'est la fin. Il ne s'agit pas de donner une médication qui ne marche pas. Elle doit être douce. Pourquoi? Parce qu'on s'adresse à un être qui est affaibli, qui va mener un combat alors qu'il est affaibli et qu'il faut lui rendre des forces. Or, l'huile est une médication, elle est utilisée pour guérir l'huile. Regardez par exemple l'usage de toutes les crèmes que l'on peut faire. Vous allez me dire, c'est choquant, on ne peut pas comparer la matière d'un sacrement avec les crèmes utilisées. Mais si, c'est le symbole. Bien sûr. Regardez dans l'évangile, le bon samaritain soigne celui qui est blessé avec du vin et de l'huile. Le vin mord, il attaque le mal. L'huile adoucit la plaie et favorise la cicatrisation. Et saint Thomas nous dit, l'huile est douce et en même temps, elle pénètre profondément et elle se diffuse. Pourquoi de l'huile d'olive? Monseigneur Lefebvre nous disait, parce que notre Seigneur a sanctifié au jardin des oliviers, il l'a sanctifié symboliquement, bien entendu, l'huile d'olive. C'est-à-dire que l'huile d'olive nous fait très facilement, presque systématiquement, penser au jardin des oliviers, dans lequel le Christ a mené le premier de nous tous, son dernier combat. Cette huile a été sanctifiée par la sueur de sang qui tomba jusqu'à terre et qui a comme arrosé les oliviers. Et lorsque nous recevons l'extrême onction avec cette huile, eh bien, nous recevons un petit peu de la sueur de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi cette huile doit-elle être consacrée par l'évêque? Parce que toute l'efficacité des sacrements procède du Christ. Et vous avez des sacrements dont la matière n'a pas besoin d'être sanctifiée, l'Eucharistie par exemple, parce que le sacrement c'est la consécration, ou bien l'eau, parce que le Christ l'a sanctifié d'avance, il l'a consacré par son baptême dans le Jourdain, il a consacré l'eau pour en faire la matière. L'huile d'olive, ça n'est que symbolique. Il n'a pas touché les oliviers, il n'a pas touché l'huile d'olive. Il s'en est pas servi pour donner un sacrement. Et donc, il a chargé les évêques de consacrer cette huile pour qu'elle devienne une matière parfaitement adaptée au sacrement de l'extrême onction. Saint Thomas donne une deuxième raison, qui est la plénitude de grâce qui est conférée, étant donné que c'est la matière du sacrement qui permet d'entrer dans la gloire, enfin qui favorise l'entrée dans la gloire, c'est ce qui permet d'entrer, c'est le baptême et la Sainte Eucharistie, qui favorise l'entrée dans la gloire, il fallait que la matière fût consacrée. Et puis il y a une dernière raison, c'est l'effet corporel. Parce que la guérison, quand elle est produite, nous verrons quand elle est produite. La guérison n'est pas donnée par les vertus de l'huile tout court, elle est donnée par une vertu qui vient du Christ. Et donc il faut que cette vertu qui vient du Christ soit dans l'huile par la consécration. Cette huile est consacrée par l'évêque, je vous l'ai dit, parce que c'est l'évêque qui est le premier représentant du Christ, et le prêtre n'agit que dans la dépendance de l'évêque. Enfin, la forme est un petit peu particulière, elle est une prière. Ça arrive, ça. Les grecs catholiques, par exemple, donnent le sacrement de pénitence sous forme de prière, et non pas sous forme d'ordre. Pourquoi une prière? Saint Jacques y insiste, hein. Il le dit que c'est une prière. Parce que celui qui reçoit ce sacrement est destitué de ses forces propres, dit saint Thomas d'Aquin. Ainsi, il a besoin d'être secouru par nos prières. La deuxième raison, c'est parce que ce sacrement est donné à ceux qui, quittant cette vie, cessent déjà de relever de la juridiction de l'Église. Et ils vont reposer, c'est très bien dit cela, ils vont reposer dans la main de Dieu seul. C'est pourquoi on les recommande à Dieu par une prière. Enfin, étant donné que l'effet de l'extrême onction est variable, notamment en ce qui concerne les effets sur le corps, un commandement ne serait pas adapté. Quand le prêtre dit « ceci est mon corps », c'est le corps du Christ. Quand il dit « je te pardonne tes péchés », les péchés sont pardonnés. Mais là, il faut insister sur le fait que le sacrement remette les restes du péché, soulage le corps, et cela, c'est toujours obtenu, puisque c'est la définition du sacrement. Il produit ce qu'il signifie. Mais la mesure dans laquelle il le produit n'est pas toujours la même, et n'est pas prédéterminée, d'où la prière. J'espérais vous parler des effets du sacrement de l'extrême onction, mais j'ai pris un petit peu de temps pour vous donner l'esprit. De toute façon, j'avais prévu un deuxième sermon, et bien vous l'aurez la prochaine fois. Vous remarquerez que, par la providence divine, ces sermons correspondent bien au temps liturgique, et je pense que, au moins les plus âgés d'entre vous, pourront méditer pendant la semaine de la Passion et au moment de la mort de Jésus-Christ sur ce grand sacrement, l'huile sanctifiée au jardin des Oliviers, ce grand sacrement qui leur permet de mener les derniers combats, parce que la vie est un combat. La vie est un combat. Les modernistes détestent le combat. C'est un beau combat, un combat qui permet d'avoir la gloire. Saint Paul le dit, les sportifs combattent dans l'arène pour une couronne de laurier, et nous, nous combattons dans la vie pour la couronne de la gloire éternelle. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.